Vous écoutez Art District et tout de suite la chronique Muse et Mécène d'Anne Serin-Reil vous fait découvrir des hommes et des femmes qui ont marqué à leur manière l'histoire des arts. Art District rend hommage à Louis Armstrong. Ce trompettiste hors pair était également un virtuose du jazz vocal. Nous sommes en 1926 et Louis enregistre une version de Heebie Jeebies. Le papier sur lequel sont écrites les paroles de la chanson lui échappe. Le maître se lance alors dans un génial exercice d'improvisation vocale, le tout sur de simples syllabes. Le scat est né. Une autre grande figure du jazz rivalisera de virtuosité et partagera la scène et les studios d'enregistrement avec lui. C'est Ella Fitzgerald, the First Lady of Song. Fish are jumping and the cotton is high. Ella Fitzgerald est née en 1917 à Newport News, en Virginie, dans une famille modeste. Peu de temps après sa naissance, son père quitte le foyer conjugal et sa mère s'établit à Yonkers, près de New York. Cette dernière pourvoit seule à l'éducation d'Ella avec son maigre salaire de blanchisseuse. Ella grandit en pleine crise économique. La Grande Dépression et le krach boursier de 1929 jettent de nombreuses familles dans la misère. Face au chômage qui frappe la population, l'industrie du spectacle vivant fait figure d'alternative. Harlem est en pleine effervescence. Les clubs et les théâtres organisent des concours pour amateurs et parmi eux, le Harlem Opera House ou le club Apollo, dont les concours de chant et de danse existent encore aujourd'hui. Si la famille d'Ella n'a pas les moyens de lui payer des cours de musique, elle encourage toutefois sa vocation d'artiste. On lui conseille de chanter. Mais la jeune fille préfère les rythmes endiablés des claquettes, du ragtime et du turkey trot, ces danses qui agitent les clubs de Harlem dans les années 1920 et 1930. « On voulait que je chante, » dira-t-elle, « et moi, je pensais que la danse était plus importante. » À 16 ans, Ella peut devenir danseuse. Pourtant, lorsqu'elle monte sur la scène du Harlem Opera House, poussée par ses amis avec lesquels elle a fait un pari, elle choisit au dernier moment de ne pas danser. Son apparence gauche et ses pauvres vêtements lui valent les railleries du présentateur et du public, mais elle ne se démonte pas et chante un succès de Connie Boswell. C'est un énorme succès. Dès lors, l'adolescente écume toutes les scènes des concours de Harlem, raflant presque à chaque fois le premier prix, jusqu'au jour où elle est remarquée par Pardue Ali, membre de l'orchestre de Chick Webb, qui joue au Savoy Ballroom, le plus en vue des clubs de danse de Harlem. Duke Ellington dira d'ailleurs de Chick qu'il dessinait des figures de danse avec sa batterie. Il avait toujours la salle de danse sous contrôle et savait exactement le rythme que les danseurs voulaient. À l'époque, ces formations n'avaient que très rarement des chanteurs. Chick Webb lui-même n'est pas convaincu à l'idée de rencontrer Ella. Il répondra ceci à Bardou Ellé. Nous faisons du jazz et le jazz, c'est le swing. Or, ces gens qui chantent ne savent pas swinger. Et les chanteurs sont d'épouvantables contraintes pour les musiciens. Mais il ne savait pas encore à qui il avait affaire. Ce n'est pas pour rien qu'Ella Fitzgerald a été baptisée The First Lady of Swing. Elle n'a pas seulement le rythme dans la peau, elle possède aussi ce balancement, ce swing que réclame tant Chick Webb. La rencontre a finalement lieu, et c'est le coup de foudre bien sûr. Quelques jours plus tard, Ella commence à jouer avec l'orchestre de Webb. Avec cette formation, elle enregistre rapidement plusieurs morceaux, et notamment le célèbre « If you can't, sing it », ainsi que la chanson pour enfants « A Tisket a Tasket », qui la propulse dans les classements des meilleures ventes de disques pendant 17 semaines et 1 million d'exemplaires vendus. Not a single thing to do. She went peck, peck, pecking all around when she spied it. La longue carrière d'Ella Fitzgerald commence. À la mort de Chick Webb en 1939, l'orchestre continue à se produire sous le nom de Ella Fitzgerald and Her Famous Orchestra. Puis, Ella se lance dans une carrière en solo à partir de 1941. C'est l'occasion de multiplier les collaborations avec des musiciens comme Dizzy Gillespie. Elle se lance dans d'étourdissantes improvisations de scat et passe d'un style à l'autre avec aisance, chantant du swing, du bebop, du blues, de la samba et du gospel. Pleine d'humour, elle n'hésite pas à enrichir ses concerts par des imitations d'autres chanteurs comme Rose Murphy ou Louis Armstrong. Son succès est tel qu'elle est réclamée dans les studios d'Hollywood. En 1942, elle apparaît dans le film du duo comique Abbott et Costello, The Nigo Cowboys, réalisé par Arthur Lubin. Quelques années plus tard, elle apparaît avec Peggy Lee dans le film de Jack Webb, Pete Kelly's Blues, dans St. Louis Blues et dans Let No Man Write My Epitaph. Mais cet univers de paillettes et de strass ne lui plaît guère. Son passage à Hollywood est cependant l'occasion de rencontrer Marilyn Monroe, qui devient l'une de ses plus grandes fans. Ella raconte avec délice l'intervention de Marilyn auprès du patron du Mocambo Club qui refuse de faire monter une chanteuse noire sur scène. Marilyn, hors d'elle, téléphone en personne au patron du club et lui demande de programmer Ella Fitzgerald contre la promesse de réserver une table au premier rang chaque soir où elle se produirait. Marilyn lui fait une telle scène qu'il finit par céder. Et Marilyn tient parole. Cette anecdote montre que malgré sa notoriété, Ella a souvent été victime de discrimination, comme beaucoup de Noirs à cette époque. La presse la rebaptise première dame du jazz, alors qu'aucune femme noire n'a encore le droit au seul titre de madame. A dream he believed would soon come true. Let's make that dream come true. It's up to me. Mais tout n'est pas si simple. Et Ella sera interpellée pour un faux prétexte après un concert ou bloquée à l'aéroport pour avoir été forcée de céder sa place à un blanc. Cependant, elle choisit d'affronter les événements avec dignité et discrétion. En 1968, elle écrira une chanson en hommage à Martin Luther King, assassiné en avril de la même année, intitulée « It's up to me and you ». Please no violence, we can live. 1947, elle épouse le contrebassiste Ray Brown, avec qui elle adopte un garçon, Ray Brown Jr., le fils de sa sœur cadette. Mais le couple ne dure pas et ils divorcent en 1953. Au cours de ces années-là, elle rencontre Norman Granz. Ce manager et producteur donnera à sa carrière une ampleur internationale. Ils formeront ensemble un duo hors pair. En 1955, Ella quitte sa maison de disques pour Verve Records, dirigée par Granz. Pour le premier disque enregistré sous ce nouveau label, Granz demande à Ella Fitzgerald de reprendre les plus grands succès du compositeur américain Cole Porter. Ce bijou, dans lequel figure la chanson Let's Do It, a rejoint en 2003 la liste du registre national américain, collection sonore choisie et préservée par le Congrès des États-Unis. Let's fall in love. In Spain, the best upper sets. Norman Granz produira ensuite plusieurs anthologies dédiées au répertoire des grands noms de la musique américaine, comme Richard Rodgers et Lawrence Hart, Duke Ellington, Irving Berlin, George et Ira Gershwin, Harold Arlen, Jerome Kern ou Johnny Mercer. Mais son enregistrement le plus connu est Porky and Bess, pour lequel Ella collabore avec la légende du jazz, Louis Armstrong. Not to mention the films, folks in Siam, do it. Les deux musiciens s'entendent à merveille et ils sont parfois pris de tels fous rires que l'on est obligé de suspendre les séances d'enregistrement. Ils se retrouveront quelques années plus tard pour l'enregistrement de deux autres albums, Ella et Louis et Ella et Louis Again, qui furent d'énormes succès. Let's do it. Let's fall in love. Romantic sponges, they say, do. Avec l'orchestre de Duke Ellington, Ella fait des tournées en Europe et en Amérique du Nord. Elle commençait les concerts avec le morceau de Duke Ellington, Take a A-Train, et fut une des rares à chanter les paroles sur ce morceau. Ella Fitzgerald possède une tessiture de voix couvrant près de 3 octaves, passant avec souplesse du grave à l'aigu. Son timbre de voix pur et sa formidable capacité d'improvisation lui ont valu l'admiration de tous ses contemporains. Elle joue avec sa voix comme le musicien joue avec son instrument et se lance avec agilité dans de longues séquences vocales sans paroles, le scat, où seules les syllabes font le rythme et la mélodie. J'ai juste essayé de faire ce que j'entendais les instruments avant faire dans l'orchestre, expliquera-t-elle humblement. Instrumentiste de la voix, elle chante avec de nombreux partenaires instrumentaux comme Oscar Patterson, Count Basie, Roy Eldridge, Joe Pass, Dizzy Gillespie et le trio de Tommy Flanagan. Elle a aussi chanté avec d'autres voix du jazz comme Nat King Cole ou Frank Sinatra. La chanteuse a réalisé une de ses improvisations les plus célèbres sur un extrait de l'opéra de Katsu à Berlin en 1960. Victime d'un trou de mémoire, elle poursuit en alternant scat et paroles improvisées. Cette version de Mack the Knife est certainement l'un des succès les plus connus d'Ella Fitzgerald avec Monsieur Paganini et How High the Moon. The concert was over in Carnegie Hall. The maestro took bow after bow. He said, my dear friends, I have given my all. I'm sorry, it's all over now. When from the balcony, way up high, there suddenly came a moment. Une autre de ses improvisations fameuses a lieu au cours d'un concert à Antibes-Juan-les-Pins à l'été 1964. Alors qu'elle se produisait dans la Pinette Gould, elle est interrompue par le chant des cigales. Elle décida alors d'improviser une mélodie qu'elle nommera « The Cricket Song » et deviendra par la suite un incontournable de son répertoire. Crickets on the left, crickets on the right, crickets just singing with me all the night. What can I do? They're too much competition, but I love him. Oh yes, I love him. What do? What do I say? I don't care anyway, 'cause they made this a happy night for me. So sing on, crickets, as long as they sing, we know it's a happy thing. 'Cause when they stop, that bop is over for me, over for me. So sing on, crickets, sing for me. Come on, crickets, sing with me. I don't care, I'm going on vacation now. You can sing anywhere. Dans les années 60-70, le jazz cède du terrain au rock'n'roll et à la pop music. Mais rien n'arrête The Lady of Song. Elle est capable de tout interpréter et le prouve. Elle choisit Can't Buy Me Love des Beatles, sorti en 64, et se le réapproprie pour son album Hello Dolly. Can't buy me love, can't buy me love, can't buy me love. Elle continue d'enregistrer et de se produire sur scène. Elle sort l'album Live, Jazz at Santa Monica Civic, et donne une série de concerts au Caesar Palace de Las Vegas. Son succès ne décroît pas, mais sa santé décline peu à peu. Sa dernière prestation au public a lieu en 1991 au Carnegie Hall de New York, où elle se produit pour la 26e fois. Ella Fitzgerald s'éteint en 1996, aveugle et victime d'une crise cardiaque, à l'âge de 79 ans. Au cours de sa longue carrière, Ella Fitzgerald a enregistré plus de 2000 chansons et a permis au jazz d'élargir son public. Première femme noire américaine à recevoir un Grammy Award en 1958, elle ouvre la voie à Dinah Washington, Dionne Warwick, Aretha Franklin, Natalie Cole et bien d'autres. Elle recevra 12 autres Grammy au cours de sa carrière. Interprète et improvisatrice de génie, Ella s'est produite à travers les États-Unis et l'Europe, enregistrant plus de 200 albums et vendant près de 40 millions de disques. Quand la grande dame du jazz, universellement reconnue par son talent, sortait de scène, ses premiers mots étaient toujours pour le public, qu'elle aimait par-dessus tout.
C'était Muse et Mécène, la chronique d'Anne Serin-Reil sur Art District, à retrouver à 7h30 et 13h30.